Alors, en fait, j'ai rencontré cette personne chez ma coiffeuse. Et quand j'ai vu que cette personne était différente de nous, j'ai posé la question à ma coiffeuse pour savoir si elle connaissait cette personne. Et elle m'a dit oui, c'est une dame qui est malade et qui vit seule. Et puis elle m'a dit, mais est-ce que tu penses que cette personne a la maladie d'Alzheimer? J'ai dit oui, j'imagine, d'après comment elle se comportait. Et puis elle a après bon j'ai fait mon soin et puis cette coiffeuse a parlé à la fille de cette dame et lui a dit votre maman en vivant seule elle vient souvent chez moi mais elle oublie ses rendez-vous et puis elle lui a dit mais je connais quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle et la fille de cette dame a pris contact avec moi.
Et donc
Voilà.
au départ, vous avez commencé à vous rendre chez elle de manière régulière.
Voilà, pour déjà tout d'abord pour prendre connaissance, pour voir si elle acceptait ma présence chez elle, parce que cette personne avait 80 ans et elle vivait seule. Et puis je suis restée chez elle quelques heures, et puis comme ça on prenait contact toutes les deux. Mais malheureusement, il y a eu le Covid. Comme c'était une personne à risque et que moi je vivais avec une personne aussi à risque à la maison, il a fallu que je prenne une décision de savoir si je voulais rester en confinement chez cette dame.
Comment on prend une telle décision? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à partir en confinement chez cette dame?
Alors en fait, bon, moi j'ai deux enfants adultes, donc j'en ai parlé, il y avait mon conjoint aussi, nous en avons parlé. Et comme je m'étais déjà attachée à cette dame, je ne me voyais pas laisser cette dame pendant, ben voilà, on ne savait pas pendant combien de temps il y aurait le confinement. Je ne pouvais pas la laisser vivre seule. Et puis, avec ce confinement, on avait compris qu'elle ne pourrait même pas être hospitalisée ou entrer dans un home. Et puis, ben, j'ai décidé de vivre chez elle 24 heures sur 24 et de l'accompagner pendant un certain temps.
Comment se sont passées ces semaines, ces mois, vous avez vécu, toutes les deux?
Alors, nous avons eu quand même une grande chance, c'est que son médecin nous a permis de sortir pour aller à la forêt, par exemple, pour aller marcher. Et puis, nous faisions de la gymnastique à la maison. Elle faisait des exercices. Petit à petit, elle s'est un peu plus éveillée qu'au départ lorsque j'étais chez elle, parce que le fait de vivre seule, elle ne parlait quasiment plus. Donc, elle commençait quand même de parler un petit peu et puis de s'ouvrir. Et puis, ben voilà, c'est une personne avec qui j'ai eu vraiment de très bons contacts. Nous allions nous promener. Après, elle m'aidait à faire un peu de cuisine. Elle pelait les légumes. Mais c'est une personne qui dormait quand même relativement beaucoup. Mais en tout cas, je me suis sentie vraiment, comment dire, comme à la maison avec elle. Vraiment, c'était une expérience magnifique.
Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on vit comme ça au quotidien avec une personne atteinte de cette maladie?
Alors, pour les proches, ce qui est difficile, parce que je me suis quand même rendu compte que d'être proche d'un malade 24 heures sur 24, ce qui est difficile, ben, c'est justement de ne pas avoir un contact de parler, puisqu'elle parlait très très peu. Il n'y a pas de contact non plus avec l'extérieur, avec les gens, même de la famille ou les amis. On est quand même désociabilisés. Et puis, ben voilà, il faut quand même mettre en place des choses pour la toilette, que la personne ne comprend plus. Parfois, il y avait des jours où elle comprenait pas qu'il fallait passer à la douche, qu'elle n'avait pas envie. Donc, il faut motiver. Et ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup, beaucoup de patience, parce qu'on répète souvent la même chose et la personne ne comprend pas. Et puis, il faut avoir aussi beaucoup d'amour, être dans la tendresse, dans le calme. Parce qu'ils ont besoin d'être vraiment toujours dans la douceur, ne pas crier ou ne pas parler trop fort, ça les angoisse. Pour moi, c'était quand même une situation assez facile par rapport à certaines personnes qui sont proches de malades, où les malades sont plus, comment dirais-je, peut-être agressifs, parce qu'en fait, le problème du proche du malade, c'est que le proche prend la place, par exemple, si c'est une dame, elle prend la place du mari qui a toujours tout guidé dans la maison et c'est madame qui commence de guider et le malade le prend grippe. Tandis que moi, comme j'étais une personne de l'extérieur, c'était beaucoup plus facile que si c'était ses enfants ou une personne proche.
Donc maintenant, les restrictions liées à la maladie ont été pour la plupart levées. La vaccination a fait son chemin. Donc, vous ne vivez plus avec cette dame. Est-ce que vous avez encore des contacts avec elle?
Alors, je n'ai pas eu de contact dernièrement, mais j'ai des contacts avec la personne qui m'a remplacée auprès d'elle. La maladie a évolué et la dame dont je me suis occupée dort beaucoup. Elle mange beaucoup moins. Quand j'étais là, elle appréciait beaucoup que je fasse à manger, elle aimait beaucoup manger, beaucoup de sucreries. Et maintenant, il semblerait qu'elle n'a plus beaucoup de goût à manger. Elle a de la difficulté à se lever, elle se recroqueville un peu sur elle-même. Et puis, voilà, c'est l'évolution de la maladie. Chaque personne malade évolue d'une manière différente. Et en ce moment, pour madame, c'est comme ça que ça se passe. On dirait qu'elle a envie de s'endormir.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. À cette occasion, les sections d'Alzheimer, Berne et Neuchâtel vous ont remis un prix coup de cœur pour votre action auprès de cette dame. C'est quelque chose qui touche, j'imagine, dans une carrière professionnelle en tant qu'auxiliaire de vie.
Oui, alors vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, j'étais très, très surprise. Ça m'a procuré beaucoup de joie parce que je remarque quand même que la vie auprès d'une personne malade, en tant que proche, c'est vraiment très difficile parce que les personnes qui sont des proches, ils perdent la personne qu'ils ont aimée, qu'ils ont connue. Puis on doit reprendre une nouvelle vie avec une personne qui est différente et c'est pas facile du tout. Pour moi, c'était beaucoup plus facile puisque j'étais extérieure à sa vie d'auparavant. Mais quand même, c'était quand même un grand investissement pour moi parce que pendant le Covid, je n'ai pas pu voir mes enfants et mon conjoint. Donc, ma vie a beaucoup changé, mais j'ai appris beaucoup et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cet accompagnement. Ça m'a beaucoup apporté.
Quel serait votre message aujourd'hui à l'intention de nos auditeurs qui connaissent peut-être pas ou peu la maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à l'occasion de cette journée mondiale?
Je dirais à tous les proches de malades qu'il faut qu'ils demandent de l'aide. Il existe des aides à domicile, par exemple de l'accompagnement bénévole de la part d'Alzheimer. Il faut qu'ils demandent aussi, il existe aussi les vacances Alzheimer, et puis il y a les groupes d'entraide, donc je suis aussi co-animatrice d'un groupe d'entraide à la Chaux-de-Fonds. Donc vraiment, il faut que les proches demandent de l'aide pour pouvoir se reposer, faire autre chose que s'occuper de leurs malades, parce qu'ils ont vraiment besoin de se reposer et de pouvoir faire autre chose que de s'occuper de leurs malades, parce qu'en général, malheureusement, les proches s'épuisent et quand ils demandent de l'aide, c'est souvent trop tard et c'est le proche qui devient malade et parfois même plus malade que la personne qui a la maladie d'Alzheimer.